Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge, je suis moi-même freelance en stratégie et storytelling de marque, et chaque semaine, je t'accompagne dans les grands sujets de ta vie d'indépendant pour te poser les bonnes questions et passer à l'action. Et dans l'épisode du jour, on va s'attaquer à un sujet fondamental de notre activité qui, j'en suis convaincu, peut faire toute la différence. Négliger ce sujet peut rapidement transformer même la plus belle des missions sur papier en un véritable enfer sur Terre. Et croyez-moi, je l'ai vécu. Et oui, je parle bien sûr de la relation client. Et pour apprendre à bien maîtriser ce sujet clé, j'ai décidé d'inviter Aurore Lanchard à discuter avec moi. Aurore, elle travaille depuis de longues années dans l'écosystème startup sur le sujet de ce qu'ils appellent avec leur jargon le « customer care ». C'est-à-dire l'art de prendre soin de ses clients. Et du coup, dans cet épisode ensemble, on explore quels apprentissages est-ce que les freelances peuvent tirer de ces pratiques très communes dans le monde des startups, beaucoup moins dans le freelancing. Mais qu'est-ce que les freelances peuvent en tirer pour développer des relations plus heureuses, plus solides, plus saines, plus respectables et plus long-termistes avec leurs clients? Et au tout début de l'épisode, Aurore nous parle également de son regard unique sur le rôle du freelancing, le rôle qu'elle donne au freelancing dans sa carrière. Et c'est assez intéressant parce que être freelance pour elle, ce n'est pas du tout précaire. Et bien au contraire, elle voit ça comme une sécurité. Un regard bien différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre, j'imagine. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse vous plonger dans ce nouvel épisode. Et on se retrouve à la fin pour le débrief. Bonne écoute. Bienvenue sur le podcast, Aurore.
Merci.
Comme tu disais, on arrive enfin à le faire parce qu'on a un peu galéré à le savoir, c'est vrai. Mais je suis très content de faire cet épisode avec toi. Je sais que toi, pour toi, le freelancing, c'est un rôle particulier dans ta vie.
qui est pas celui auquel on peut forcément s'attendre avec d'autres freelances qui se lancent pour qui c'est le mode de vie absolument qu'il leur faut et ils peuvent renoncer à tout le reste. On va en parler après. Enfin, tu vas peut-être en parler directement d'ailleurs. Et j'ai aussi super envie de voir comment les freelances peuvent apprendre de ton expertise à toi, qui est dans l'accompagnement, la relation client et ce qu'on appelle le care, donc prendre soin de ses clients. Parce que je pense que beaucoup de freelances ont des tensions avec leurs clients, elles ne s'entendent pas bien, donc on va parler de ça aussi. Et avant de rentrer dans tout ça, première question rituelle, comment et surtout pourquoi tu es devenue indépendante ?
Alors, j'ai commencé à devenir indépendante il y a assez longtemps, mais ça a été vraiment par intermittent. Je crois que j'ai commencé sur le coup de 2013.
Okay.
Alors, à la base, c'était mes anciens clients qui me contactaient, qui me demandaient notamment de gérer leurs réseaux sociaux. Et alors, parfois, c'était des activités non déclarées, my bad, c'est mon côté pirate. Mais après, c'était sur des petits montants. C'était vraiment sur des tout petits montants. C'était vraiment un petit complément. Et puis, je me suis un petit peu pris au jeu. Alors, après, j'ai fait vraiment de l'entrepreneuriat où j'ai monté une boîte qui s'appelle Melberries, qui était de la gestion de chaîne YouTube avec un ancien collègue.
Okay.
On l'a revendu à Webedia
okay.
en 2014. Et en fait, j'ai toujours continué à faire un peu de freelance, alors que ce soit légal ou pas, durant tout mon parcours. Parce que pour moi, c'était une deuxième source de revenus, parce que c'est important aujourd'hui d'avoir plusieurs sources de revenus.
Ouais.
Que ce soit dans vos activités en freelance ou que ce soit...
Ou l'investissement, ou peu importe, mais...
Exactement, ouais. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et puis, récemment, chez Shine, en fait, j'étais vraiment poussée par le CEO de Shine, Nico, que je remercie énormément pour ça, parce qu'il m'a vraiment poussée à faire du freelance en disant « Nos clients, c'est des freelances, refais du freelancing.
Mmh. »
Et en fait, moi, je me suis aperçue que le freelancing, pour moi, c'était une sécurité. Parce qu'au final, c'est pas si sécure que ça d'être salarié. Ok, on a le même revenu, mais tu sais pas si tu vas adorer autant ton équipe, ta mission dans un ou deux ans. Alors que quand t'es freelance, tu choisis tes clients. Donc pour moi, c'est vraiment la sécurité par rapport au salariat.
C'est intéressant que tu dis ça, parce que je pense que la perception globale du fait d'être freelance, c'est pas forcément... Le mot sécurité ne vient pas forcément en tête directement. J'ai beaucoup de personnes que je connais qui sont indépendantes, notamment dans le programme. Quand tu parles avec eux et qu'ils partagent un peu les discussions qu'ils ont avec leur famille, avec leurs proches, leur famille et leurs proches leur disent « c'est pas un vrai travail, c'est complètement précaire ». C'est drôle du coup que toi, tu vois ça plutôt comme ta sécurité à toi.
Pour moi, j'ai un peu une vision pessimiste, mais je me dis que là, on est jeune, mais qu'il faut préparer l'avenir, parce que quand tu as 50 ans, tu n'es plus du tout employable. Et si tu as été le gentil petit salarié d'une entreprise, gentil petit soldat, sans activité complémentaire, le jour où on te dit salut, mais qu'est-ce que tu fais ? T'es fini en fait, t'es plus rien. Donc le fait de continuer à être freelance en tant qu'être salarié, le jour où ton grand groupe ou anyway, peu importe la boîte, te dit salut quand t'as 50 ans, tu dis alors ?
Ouais, c'est bon.
J'ai mon activité.
Ça fait déjà 20-30 ans que je le fais à côté, maintenant je passe full time. Quoi.
Exactement.
Ah, c'est intéressant parce qu'effectivement, avec mon écosystème d'indépendants, on a une activité qu'on fait qui s'appelle l'agence école. Où en gros, le principe, c'est de réunir des juniors qui sortent d'école, à qui, à tous les entretiens, on leur dit « t'as pas d'expérience » et du coup, ils trouvent pas de taf. Et des seniors qui, justement, ils ont 50 ans, ils sont lâchés par leur boîte, alors qu'ils ont toujours été dans cette boîte, par exemple, notamment pour des circonstances de pas de niveau sur le digital, ce genre de truc. Et du coup, on met ces deux profils-là ensemble pour faire du reverse mentoring et on les place ensemble sur des projets de l'agence pour qu'ils puissent avoir des expériences concrètes du terrain, et ils sont coachés par les indépendants de l'écosystème pour les aider à développer ces réseaux-là, à apprendre sur le terrain, sur une vraie mission. Et on voit effectivement que du coup, les gens qui sortent de cette boîte, les seniors, ils n'ont pas toutes les compétences entrepreneuriales qu'il faut pour être indépendant, ils n'ont pas l'autonomie, parce que je n'ai pas l'impression que c'est un truc qu'on apprend forcément quand on est dans des grands groupes ou en CDI. Du coup, c'est intéressant que pour toi, ta vision de ta carrière sur les prochaines années, c'est de jouer constamment sur les deux tableaux.
Absolument.
Et d'avoir du coup un CDI et de faire du freelance à côté pour continuer de développer les deux activités.
Exactement.
Okay.
Et c'est intéressant parce que du coup, tu te rends compte que même quand tu es employé, en fait, tu pourrais dire que je suis un freelance dans la boîte où je suis employé. Parce que ce qui est le plus important, en fait, c'est ton personal branding. Alors, c'est pas le personal branding... dans le sens où j'en fais des caisses sur LinkedIn et je poste sur tout et n'importe quoi et des trucs qui n'ont aucun sens. Mais par contre, c'est intéressant de se constituer un réseau et justement d'un comment dirais-je, de s'exprimer sur des sujets intéressants et de montrer son point de vue, notamment en faisant des conférences, ça peut être en écrivant des articles médiums, ça peut être en faisant partie de réseaux de professionnels de ton secteur. Par exemple, moi, j'ai monté, j'ai été poussée à monter Support Driven France, qui est l'émanation française d'une grosse organisation des professionnels du support.
Okay.
Parce que toutes ces choses-là que tu vas faire à côté, si jamais un jour tu as envie de changer de boîte, eh ben, c'est des choses sur lesquelles tu vas pouvoir te reposer, qui vont t'aider à rebondir. Il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, moi, je me prépare toujours au pire, en fait. Je suis ultra pessimiste.
Ouais, mais ça, tu vois, je pense que c'est un peu la réflexion entrepreneuriale de se dire, t'es toujours un plan B, entre guillemets. Et du coup, de toujours être dans cette posture de, dans le pire du pire du pire, je suis prêt à rebondir parce que je sais ce que je vais faire. Et je pense que ces trucs de, tu vois, ce dont tu parles, support driven, ou à quel point toi, t'es active aussi dans les réseaux de Lyon ou The Family, qui est l'écosystème startup, qui sont les boîtes avec lesquelles tu travailles, que ce soit en freelance ou en CDI d'ailleurs. Je trouve que c'est un peu la réflexion qu'on pouvait nous inculquer à l'école de « faut construire ton CV », mais plutôt sur le côté « j'ai des projets complémentaires cohérents avec mon activité, avec mes compétences, avec là où j'ai envie d'aller ». Et ça fait qu'effectivement, que tu sois en salarié ou en free, peu importe quel est ton contexte de travail, tu as une perception de toi en tant que personne et de toi, ce que tu fais, qui augmente parce que tu as tous ces trucs-là autour qui sont cohérents, en fait. Et je trouve ça hyper intéressant comme réflexion de se dire, comment est-ce que, même quand je suis salarié, je construis cette cohérence pour que si je veux être free ou salarié ou en CDD ou peu importe ce que je fais ou monter une boîte, j'ai une cohérence sur mon secteur d'activité que j'ai construite avec le temps. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant comme réflexion.
C'est vraiment, moi, je pense qu'il faut vraiment pas être, par exemple... Moi, je pense que le pire truc qui peut t'arriver, c'est que tu deviennes, par exemple, Gérard d'Orange, tu vois, t'as même plus d'identité, t'es Gérard qui a bossé 40 ans chez Orange.
Si Gérard d'Orange nous écoute, ce n'est pas une attaque, Gérard.
Non, et j'aime beaucoup les grands groupes, mais c'est dans le sens où tu vas perdre ton identité, elle va se fondre dans celle du grand groupe ou de la start-up. Et c'est hyper important, en fait, de construire ton nom en dehors de l'entreprise. Et ça va être positif pour toi et pour l'entreprise, parce que plus ton nom va rayonner, plus tu vas faire rayonner l'entreprise pour laquelle tu bosses, et plus ton nom va rayonner, plus ça va être intéressant pour tes activités externes.
C'est hyper intéressant. Ce que j'ai une vraie conviction, c'est qu'avec le temps, d'autant plus maintenant que le freelancing, ça devient quand même un autre contexte majeur de comment on peut travailler, j'ai vraiment l'impression qu'avec le temps, on va aller plus vers... Il y a plein d'individus qui sont au service de projets, et que le contexte, c'est juste, tu peux faire dans CDI, salarié, freelance, peu importe, mais que tout sera construit autour de toi en tant que personne, les compétences que tu apportes à des projets sous différentes formes. C'est-à-dire que, comme si on était tous des professionnels indépendants avec des compétences différentes, et que la somme d'entre nous crée des projets plus grands que nous, et c'est ça au final les grands groupes, c'est on réunit plein de compétences incarnées dans des personnes autour d'un projet. Mais j'ai l'impression qu'on va vraiment l'individualiser de plus en plus, plutôt que dire individualiser, parce que c'est pas forcément le bon terme, mais incarner de plus en plus dans des personnes. C'est-à-dire que toi, tes compétences, au fur et à mesure de ta carrière, comme tu dis, tu seras pas seulement Aurore de telle boîte sur 50 ans, mais tu seras Aurore Lanchard, qui a une réflexion particulière sur le customer care, qui va ensuite apporter ses briques à différentes boîtes dans le temps, que ce soit en freelance, en salarié, etc., etc. Et je pense vraiment qu'on va aller vers là, et que du coup, c'est effectivement dans l'intérêt de n'importe quel individu de se positionner sur un sujet avec son point de vue, avec sa méthode, avec ses réflexions et sa communication dessus, pour que dans le temps, on construise une identité autour de ses compétences plutôt qu'autour de sa boîte.
Et c'est amusant ce que tu dis, parce que ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec un grand groupe bancaire français qui me disait qu'eux, en fait, ils ne veulent plus, notamment dans les entretiens avec leurs collaborateurs, parler de projets, parce que anciennement, c'était les réunions... type OKR, c'était où en es-tu dans ton projet, et là ils ont envie de changer, d'individualiser ça à où en es-tu toi dans la boîte.
Ah, c'est intéressant ça. Du coup, ça voudrait dire que même les méthodes d'évaluation, c'est plutôt pas tourné vers la personne qui doit se développer, etc., etc., et les projets sont des manières pour elle de se développer plus que de faire toi, t'es un maillon d'un projet. Et ah, c'est intéressant. Donc redonner l'identité aux gens et que ce soit ça le cœur de toute réflexion professionnelle.
Absolument. Je pense qu'il y a une vraie convergence pour le coup entre grands groupes, start-up et freelance. Et que maintenant, ça va être vraiment les gens qui incarnent les projets en fait.
Et c'est trop cool. On a un peu divagué, mais je pense que c'est une réflexion hyper intéressante, un peu plus macro que ce qu'on a l'habitude de voir sur le podcast. Donc c'est trop cool. Pour en revenir à ton métier à toi du coup, toi, ce que tu fais depuis, je ne sais même plus combien d'années, mais ton expertise, c'est le customer care. C'est ce que tu faisais notamment chez Shine avant de te remettre à freelance à 100%, ce qu'est-ce que tu fais en ce moment. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu peux nous donner du coup ta vision? C'est quoi ta définition de ce que c'est le customer care pour les gens qui écoutent le podcast qui n'ont jamais entendu ce terme?
Alors, le customer care, c'est assez vague au final. Enfin, ça pourrait être l'expérience client. C'est une brique de plusieurs choses. Enfin, ça peut être du support client, ça peut être du customer success parce que c'est pas exactement la même chose. Les ouais. objectifs sont pas les mêmes. Tu pourrais très bien avoir une brique de produit aussi parce que finalement, le service client travaille.
Permet de nourrir le produit, ouais.
Absolument. Et l'idée, en fait, c'est de faciliter la vie de tes clients et les rendre heureux. Et faciliter la vie de tes clients, ça va être leur répondre correctement, comprendre quels sont leurs problèmes pour les traiter à la racine. Et là, justement, on va s'appuyer sur les équipes produits, voir s'il n'y a pas de dissonance entre ce qui a été promis, notamment en période de vente et après.
Ouais. Ah, c'est intéressant ça.
Ça va être aussi voir justement s'il n'y a pas des choses qui ont été promises en marketing et qu'on n'est pas capable non plus d'assumer. En fait, ça va être vraiment chercher à être cohérent à tous les stades.
Ok, et toujours avoir en tête le client lui-même et que c'est ça la base de tout. Je pense, c'est pour ça que j'avais envie qu'on ait cette discussion ensemble parce que je pense qu'il y a beaucoup trop de freelances qui ont une sorte de peur de leurs clients ou qui prennent les clients pour un peu comme une relation entre un salarié junior et son premier boss. C'est-à-dire que il faut surtout pas le froisser, faut faire attention à ce que tu dis, t'as une relation très froide et distante. Ce qui, je pense, crée beaucoup de problèmes, par exemple, de non-communication, ce genre de choses. Et c'est pour ça, je trouve que l'approche du customer care et notamment du customer success, qui est en gros la base de ce genre d'organisation dans les startups, c'est de se dire comment je fais tout pour que mon client puisse avoir la réussite dans ses projets en utilisant notre service ou notre plateforme. Et je trouve que ça, c'est une réflexion qui peut être hyper intéressante à se dire ben, comment est-ce qu'en freelance, pour nos clients, on peut faire ça aussi.
Enfin, moi, en tout cas, je pense à mes premières erreurs en tant que freelance, c'est que je n'établissais pas de règles en fait, entre moi et mon client. Et typiquement, ça débordait. Moi, je me retrouvais frustrée. Et du coup, je pense qu'il y avait aussi une frustration du côté du client. En fait, par exemple, moi, maintenant, dans certains devis, je vais expliquer que sur tel projet, j'accepte 2 retours maximum. Au moins, tu vois, c'est expliqué. Si le client déborde, il sait que j'ai surfacturé. Et moi, je sais que je vais continuer à être rentable. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'établir des règles, mais ce n'est pas des règles. Ah, oh, c'est comme ça, mais juste expliquer. Ben, moi, pour être efficace, j'ai besoin qu'on travaille de telle manière. Et c'est comme ça qu'on va réussir ensemble ce projet.
Donc, cadrer plus les échanges dès le départ et que ce soit clair et net.
Absolument.
Tu as d'autres exemples comme ça? Parce que, effectivement, le nombre de retours, je trouve ça vraiment intéressant. Je pense qu'il y a aussi d'autres choses sur une régularité de points, comment est-ce qu'on communique ensemble. Enfin, ça peut aller bien plus loin. Tu vois, par exemple, j'ai regardé pas mal de tes interviews et de tes discussions du coup pour préparer l'épisode. Et il y en a notamment une qui était un talk que tu faisais chez The Family où tu parlais du nombre de fois où tu avais des clients chez Shine à l'époque du coup au téléphone. Et qu'il y en avait avec qui tu avais 4, 5, 6, 7 interactions. Parfois même par jour, parce qu'ils avaient un problème et vous étiez en train de le régler. Qu'est-ce que tu penses de quand tu as ce nombre d'interactions avec les gens et quand tu définis du coup que c'est par téléphone plutôt que par mail, etc. Qu'est-ce que ça te permet de faire par la suite pour ton projet?
Alors, tout dépend. Après, je pense que l'exemple de Shine, comme c'est un B2B, mais un petit B qui ressemble à du B2C, on est obligé un peu de rationaliser. Tu peux pas avoir des échanges aussi proches, bien qu'ils soient quand même proches chez Shine, mais pas aussi proches que quand tu as un client en freelance sur un énorme projet. Ouais. Après, je pense que justement, en vrai, le devis, moi, pour moi, c'est la clé de la relation avec ton client. C'est là où tu as précisé combien tu fais de points par semaine ou par jour avec ton client. Justement, tu apprécies le nombre de retours. Moi, ce que j'aimais bien aussi, c'était préciser des étapes intermédiaires. Ouais. Je faisais des rétro-planning, par exemple. Je lui disais, moi, je fais beaucoup de workshops en freelance. Ben, j'explique, telle date, j'envoie un formulaire aux participants pour préparer. Telle date, je vous envoie les slides et je me laisse une marge de manœuvre pour qu'ils me, justement, fassent des retours s'ils veulent que je modifie des choses. Et en fait, j'intègre souvent ça dans le devis, justement, pour que tout soit cadré, qu'il n'y ait pas de surprise.
Ouais, et je pense que ça crée beaucoup de réassurance aussi, parce que la personne qui reçoit juste un devis avec les lignes et un montant et qui se dit, peut-être même qu'il ne connaît pas ton métier, qui n'a aucune idée de comment ça va se dérouler, à quel moment on va faire quoi. J'imagine que ça peut faire peur pour des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des freelances. C'est clair que je vois tellement à quel point ça peut être rassurant de se dire « Ok, là, j'ai une visibilité sur les 3 prochains mois de comment ça va se passer, à quelle date. » Évidemment, les dates peuvent changer. Hein. C'est pas non plus... on n'est pas comme ça et super réglo... Enfin, je veux dire super carré parce que non, la date ne change pas. En tout cas, ça donne une visibilité. Et ça, je pense que c'est vraiment une clé à retenir pour les gens qui écoutent, c'est... Comment est-ce que tu peux définir dès l'entrée de jeu et en communiquer dessus de manière ultra claire avec tes clients comment ça va se passer la relation entre vous? Et je pense que ça fait énormément de différence parce que la communication devient bien plus fluide parce que tout le monde connaît les, comme tu dis, les règles du jeu. C'est quoi d'autres clés que tu dirais sur et je vais revenir après sur, il y avait un autre talk où tu définissais l'acronyme du CARE, ce que ça pouvait dire. Mais est-ce que tu vois déjà, avant que je rentre là-dedans, d'autres clés pour se dire dans ce qui se fait dans le monde des startups, sur le CARE au sens général, sur la relation client, le support, tout ça, qu'est-ce qu'on ne fait pas assez en freelance qu'on pourrait faire davantage en s'inspirant de ce que les startups font sur ce sujet?
Je pense que ce qui pourrait être intéressant, moi je ne l'ai jamais testé en tant que freelance, mais là du coup ça me donne envie de le tester, c'est remercier les clients après avoir fait un projet qui s'est bien passé. Je veux dire, moi, j'ai adoré travailler avec vous. Merci de votre confiance, parce que je pense qu'on remercie pas assez les clients de nous faire confiance, parce que quelque part, ils nous connaissent pas vraiment et puis nous laissent un projet qui leur tient à cœur. Donc ça, je trouve que ce serait intéressant de le faire plus. Et après, je pense que pour avoir une récurrence aussi, c'est important de prendre des nouvelles des clients, parce que des fois, on va avoir des one-shots avec des clients alors qu'on aurait pu très bien... reprendre un autre projet derrière parce qu'on a pris des nouvelles et ça, c'est juste un « bonjour, j'espère que vous allez bien, je vous contacte juste pour prendre des nouvelles parce que moi j'avais beaucoup aimé travailler avec vous, je vous souhaite une excellente journée
».
Et juste ça, je pense que ça peut faire la différence parce que ça montre qu'on est vraiment passionné par ce qu'on fait et puis qu'on est passionné par nos clients.
Ouais, et ce que je trouve intéressant là-dedans, et c'est une conviction qu'on partage tous les deux, c'est que tu construis au-delà du projet ou des compétences une vraie relation avec la personne en fait.
C'est ça.
Et est-ce que... Et quand tu relances... Enfin, relance entre guillemets, mais quand tu prends des nouvelles comme ça, tu développes effectivement, comme tu dis, de la récurrence. Et il y a beaucoup de free. J'ai l'impression que un des grands torts des freelances, c'est de traiter leurs clients comme des... Un peu comme des pailles à usage unique. On fait une mission et tout de suite, on part chercher d'autres clients. Alors que si on arrivait à mettre en place de la récurrence avec, tu vois, même une poignée de clients, genre 5 clients... récurrent tous les mois, on peut avoir un business qui marche super bien et qui nous permet d'atteindre nos objectifs sans pour autant toujours courir après d'autres clients.
Et puis il y a plein d'outils, justement, on en revient toujours à ça, mais si tu fais des choses à côté de ton activité salarié ou freelance, admettons, je sais pas, t'écris un article, tu fais un talk, etc., rien ne t'empêche d'écrire un petit email personnalisé, bonjour, j'espère que vous allez bien, voilà mon prochain event, je serais ravie de vous y voir, très belle journée à vous.
Hâte d'en savoir plus sur là où est le projet, depuis qu'on a travaillé ensemble, ce genre de trucs. Est-ce que du coup, alors j'imagine qu'il n'y a pas de vraie réponse, mais juste pour que les gens se projettent vraiment dans le concret, est-ce que tu verrais genre une sorte de guidelines idéales de relations clients, genre quelles sont toutes les actions qu'on pourrait faire après une mission pour continuer d'entretenir la relation avec un client? C'est-à-dire, tu viens de faire une mission, ça s'est bien passé, tu viens de livrer, quelles sont toutes les choses où tu te dis, tiens, ça serait une bonne chose pour prendre soin de la relation, pour avancer?
Je pense que c'est prendre des nouvelles, peut-être pas tous les mois, mais tous les 3 mois, okay. Les tenir au courant aussi, peut-être des nouveaux projets dont tu es fier que tu as fait.
Ouais.
Ça peut être les inviter à une conférence ou un événement spécial que tu organises.
Ou qui leur parle d'ailleurs, je me dis, tiens, j'ai vu passer ça. Ça, c'est un truc que j'avais fait à un moment, garder en tête les enjeux de tes clients et quand tu vois des choses qui pourraient les intéresser, juste leur envoyer. Parce que ça se trouve, ils l'ont pas vu, et en général, c'était hyper bien reçu par mes clients. Ils disaient, ah, trop bien, j'avais pas vu passer ça, c'est vrai que ça a l'air intéressant, ça peut nous aider pour là où on en est. Et je trouvais que ce que tu disais sur le feedback inversé aussi, c'est une bonne pratique, parce que souvent, on dit, oui, il faut que toi, tu demandes des feedbacks aux clients pour t'améliorer, pour savoir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, et du coup, apprendre sur ton offre et ce que tu développes. Mais l'inverse est tout aussi vrai, je pense. Si nous, en tant que free, on donne des feedbacks à notre client pour lui expliquer là où on a vraiment adoré travailler avec lui, là où c'était vraiment pertinent ses réflexions ou ses retours ou ses briefs, ça, je pense que ça peut aussi apporter beaucoup de valeur à l'autre et du coup développer davantage la relation, c'est vraiment cool. Je vais venir dans l'autre aspect de ce que tu disais pour qu'on creuse un peu dans ce que ça veut dire le CARE et comment on peut l'utiliser pour les freelances. Tu disais justement, du coup, comme je le disais avant dans une de ces conférences, le CARE, c'est une méthode, mais c'est aussi un acronyme pour comprendre la méthode. Et ce que tu dis notamment, c'est que par exemple, le CARE, enfin le C de CARE, c'était changer de perspective pour prendre celle de ton client.
Absolument.
Qu'est-ce que tu dirais sur ça, du coup, pour les gens qui nous écoutent, pour un freelance, ça veut dire quoi ?
Pour un freelance, en fait, c'est quand tu as un retour de ton client super énervé, c'est pas une attaque contre toi. Et il faut vraiment jamais prendre les choses d'une manière personnelle. Je sais que c'est dur parce que, on est le seul.
Ouais, surtout quand t'es free, je pense que tu t'identifies beaucoup à ton activité parce que t'es seul à bord, quoi.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ton client, il n'est pas forcément fâché contre toi, il est fâché contre une situation qu'il trouve frustrante. Donc moi, généralement, quand je reçois des mails assassins, je les laisse reposer 2-3 heures. Si je le reçois en fin de journée, je n'y réponds pas, je dors dessus. Et le lendemain, j'ai des idées un petit peu plus claires pour y répondre et pour comprendre qu'est-ce qui a fait que ce client ne se sent pas bien, en fait. L'idée, c'est vraiment de pouvoir rectifier le tir et de faire que le client ne se sent pas bien. Peut-être que en tant que freelance, ton client a une deadline, qu'il a peur qu'on la respecte pas, et justement, là, il faut juste le rassurer. Alors, des fois, ça peut être juste prendre son téléphone et dire, voilà, vous inquiétez pas, j'en suis à là du projet. À telle heure, ce sera fini, il sera dans votre boîte email. Je me charge de tout et je vous tiens au courant de l'avancée. Ou, j'en sais pas, si c'est des slides, voilà le lien, vous allez pouvoir voir l'évolution des slides toute la journée. Enfin, en tout cas, lui montrer l'avancement du projet. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que c'est un peu toujours le cas aussi en B2C en général, quand les clients deviennent fous, c'est que... deviennent fous, enfin en tout cas, sont super mécontents, c'est qu'ils n'ont pas de visibilité et ça les rassure beaucoup. Enfin, tu vois, dans les parcours produits, quand il y a étape 1, étape 2, étape 3, vous en êtes là, ça rassure beaucoup. Et je pense que essayer de reproduire ça en freelance...
Ouais, c'est... On en revient à ce que tu disais au début sur les règles aussi, c'est de la transparence en fait.
Absolument.
C'est-à-dire que la personne, pour la rassurer qu'elle se sente prise en compte dans l'évolution d'un projet, c'est peut-être d'avoir un point régulier, comme tu dis, ok, là on en est à l'étape 1, voilà ce qui a été fait, voilà ce qui va être fait dans les prochains jours, là on en est à l'étape 2. Cette transparence, je la trouve vraiment intéressante parce qu'effectivement, quand on se met dans les bottes de notre client et qu'on a des nouvelles au début, et dès que le devis est signé, on se met au travail mais on lui dit rien. Il peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle travaille? Est-ce qu'elle ne travaille pas? Et je pense que c'est ça le biais qui fait qu'il n'y a pas certains clients qui veulent imposer de travailler sur place, parce que je pense qu'ils ont vraiment énormément besoin de visibilité, que du coup, ils se disent, la seule manière de l'avoir, c'est d'avoir la personne sur place, alors que ce n'est pas forcément le cas si on crée cette visibilité avec d'autres outils. C'est intéressant, ça. Et... il y avait un autre point là que tu touchais du doigt, mais qui est aussi le E de l'acronyme, mais on va direct venir à ça. Donc le C, c'était changer de perspective pour prendre celle du client. Et le E, c'est l'empathie, qui au final, les deux se regroupent pas mal. Pour toi, ça veut dire quoi, être empathique avec son client?
Ça va être comprendre vraiment... le comprendre lui, en fait, et essayer de ressentir ce qu'il ressent. Et typiquement, ça va être... moi, quand justement, je travaille avec un client, j'essaie de... Et du coup, c'était hyper malin chez Shine, parce que comme on était tous freelance, quand on recevait des mails de nos freelances, « Au secours, j'ai un mail de l'URSSAF », on connaissait ça, donc on était empathique naturellement en se disant « Ah ouais, moi aussi... » Enfin, on pouvait carrément répondre au client « Moi aussi, je connais ça.
Ouais.
Ne ça vous inquiétez pas. Étape 1, étape 2, étape 3, voilà comment tu dois procéder. » Je pense qu'en freelance, en vrai, c'est pareil. Enfin, tu vois, si tu bosses, je sais pas moi, avec une grosse marque de cosmétiques, j'en sais rien, c'est l'été, tu dois bosser, j'en sais rien, moi, sur une créa pour leur collection été, et que tu en es déjà au mois d'avril, et ben, c'est normal qu'ils soient stressés, en fait. Et je pense qu'il faut vraiment essayer d'imaginer, enfin, c'est vraiment respirer, prendre un instant et se dire, ok, imagine, c'est moi le responsable de cette marque de cosmétiques. Là, j'ai ces deadlines. Je suis face à un freelance qui est comme ça.
Qu'est-ce que ça te fait, quoi?
Ouais, comment exactement.
Je le sens. C'est un peu, j'aime bien dire, cette réflexion, je la trouve intéressante aussi quand on définit avec qui on veut travailler. Parce que je trouve qu'en fait, la clé de tout ça, c'est juste rentrer à tel point dans le monde que l'autre, de l'autre, qu'on va même comprendre sa psychologie derrière. Tu vois, toi qui viens du monde des startups, en plus, on parle toujours de, il faut identifier le problème auquel on veut répondre, mais on parle jamais assez de quels sont tout ce qui se passe derrière le problème, et ce problème, qu'est-ce qu'il crée comme sensation, comme émotion, comme réflexion, comme peur dans le quotidien de la personne. Parce qu'effectivement, le client que tu décris là, s'il en est au dernier moment, qu'il a besoin d'une créa parce que son boss lui met énormément de pression pour sortir une belle campagne, qu'ils ont un temps limité, évidemment, il aurait pu s'y prendre plus tôt, ce que beaucoup de gens vont me répondre là. Mais vu la situation, évidemment que le stress est là, évidemment que la vitesse, c'est important, évidemment que la visibilité et comprendre où ça en est, c'est important. Et si on arrive à comprendre tous ces enjeux psychologiques qui sont derrière le problème qui nous mettent dans le brief, qui est « j'ai besoin d'une créa sur un Kiwi pour une campagne », mais là, on crée une vraie relation client qui est beaucoup plus profonde et qui fait que dans le temps, on peut avoir de la récurrence avec la personne parce qu'elle se sent compris, en fait.
Exactement.
Et ça, je trouve que c'est vraiment une clé, et on n'en parle pas assez de à quel point il faut être empathique. Surtout dans le monde des startups, on n'en parle pas assez. Trop bien. Le point que je trouvais intéressant par rapport à ton premier truc sur ces deux aspects-là, c'est prendre du recul sur la situation et se désidentifier. Tu vois, t'en parles là, quand tu dis, ok, si c'était pas moi le freelance et que je suis dès cette personne-là et que je regarde la situation et que je la vois, qu'est-ce que j'en pense globalement sans m'identifier dedans? Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Est-ce que t'as un autre exemple où tu peux te dire, tu vois, genre un exemple de comment les gens peuvent s'y prendre? T'as dit, on respire un peu, on prend du recul, mais peut-être une méthode d'analyse pour se dire comment est-ce que j'analyse une situation sans m'identifier à l'intérieur.
Moi, j'écris. Enfin, j'aime bien écrire. Je m'imagine être la personne et je m'imagine, par exemple, être justement ce responsable de communication dans la marque de cosmétiques. Et j'imagine que j'écris au freelance que je suis, par exemple, pour bien me mettre dans la peau et puis justement prendre du recul. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que moi, dans la communication que je vais avoir avec mes clients, avant d'envoyer mon email, je le fais tout le temps, que ce soit en B2B, en B2C. Et avant d'envoyer l'email, je le relis plusieurs fois en me disant, est-ce que moi j'aimerais recevoir cet email, en fait?
Ah, c'est pas mal ça. Est-ce que moi j'aimerais recevoir ce mail? Ouais, c'est drôle parce que c'est aussi un outil de, quand on fait du démarchage ou de la négociation, en général, un des apprentissages clés, c'est de se dire, quel email je peux écrire que la personne rêve de recevoir?
C'est ça.
Alors qu'elle ne connaît pas. Et quand on fait cette réflexion, même quand on démarche des clients à qui on n'a jamais eu de rapport, on peut se dire, ok, cette personne-là, je vais la contacter. C'est quoi l'email, en sachant sa posture et où elle en est dans son activité, qu'elle rêve de recevoir pour avancer au prochain pas? Et je pense que même effectivement, dans une situation où ça se passe mal sur un projet, mal entre guillemets, et on se dit, ok, quel mail elle voudrait vraiment recevoir maintenant pour qu'on corrige la situation et qu'on avance? C'est encore une fois une vraie question d'empathie, quoi, et de se mettre dans sa peau et de vraiment comprendre sa situation et d'aller loin dans la compréhension de cette relation-là, quoi. Le A, je reviens sur notre petit acronyme, le A de CARE, du coup, tu disais aussi que c'était l'importance de devenir en quelque sorte l'advisor de notre client, c'est-à-dire la personne qui répond à toutes ces questions et à tous les flous, toutes les choses qu'il ne comprend pas. Qu'est-ce que tu dirais sur ça?
Alors moi, ce que j'aime bien, la posture que j'aime bien, c'est pas une posture de sachant, c'est vraiment une posture, on est main dans la main. Et encore plus en tant que freelance, tu dois vraiment être main dans la main avec ton client. Et c'est pour moi lui fournir les informations dont il a besoin, mais aussi des informations complémentaires. Parce que justement, si ton message est bien structuré, que tu as toutes les informations, et même les informations à la question suivante à laquelle il t'aurait posé, tu vas avoir du coup moins d'échanges email dans ta journée, donc tu vas pouvoir plus te concentrer sur tes tâches. Donc, et puis c'est ouais, un côté un peu coach. Enfin, pour le coup, chez Shine, on était vraiment les coachs de nos freelances, mais même en tant qu'indépendante, ce serait bah, voilà comment j'ai envie de travailler avec toi, voilà de la documentation aussi externe que je trouve qui est intéressante pour toi, ouvrir tes chakras ouais. sur tel sujet. Et puis, ouais, aller plus loin en fait, ça veut dire vraiment creuser l'email et t'imaginer toutes les questions suivantes que ton client va te poser pour déjà y répondre vraiment dans un premier
mail. Ouais, ce qui sous-entend du coup de connaître en général les questions que tes clients te posent pour anticiper ces réponses-là en fait.
Ouais.
Et pour toi, c'est quoi l'effet positif que ça a sur une activité d'indépendant notamment quand tu as ce niveau de compréhension du client en face, de toutes les questions qu'il peut se poser et que tu y réponds?
Pour moi, il y a une relation de confiance qui va s'établir. Et la seconde chose, c'est que tu vas vraiment être vu comme une référence, un professionnel. Parce que quand tu reçois un email où on te détaille comment le projet va se passer, de la documentation complémentaire pour que toi, tu comprennes mieux tel sujet, pourquoi toi, tu as fait tel choix, j'en sais rien, moi, artistique ou tel choix, je sais pas, moi, par rapport à une stratégie de marque, ben, du coup, tu te dis, OK, cette personne-là, elle est vraiment structurée, donc je peux me reposer sur elle.
Ouais, donc c'est juste aller encore plus loin dans la relation et quelque part aussi, en aidant ton client à comprendre toute ta réflexion et même ton métier presque, ça te permet d'augmenter la valeur perçue de ton travail, j'ai l'impression.
Absolument.
Ce qui veut dire qu'il va t'accorder davantage de valeur, ce qui fait que du coup, dans le temps, il a envie de continuer de travailler avec toi. Ça rejoint un outil dont tu parles aussi dans cette conf qui était lié à ce sujet. Qui est beaucoup utilisé en startup, mais je pense que nous aussi, Free, on peut utiliser, c'est la FAQ. C'est quoi l'enjeu d'une FAQ pour toi? C'est-à-dire, pour ceux qui nous écoutent, qui savent pas ce que c'est FAQ, c'est Frequently Asked Questions, donc c'est en gros une page web ou un outil ou quelque chose qui répond aux questions les plus fréquemment demandées par vos clients. Déjà, dans les startups, quand tu crées cet outil, à quoi ça sert selon toi d'avoir ça?
Alors, bah, ça sert déjà à avoir moins de questions, parce que l'idée, c'est d'en avoir le moins possible quand tu as une grosse croissance au niveau de tes clients. Et puis, ça sert vraiment aux gens à un petit peu vérifier tes références, vérifier comment les choses vont se passer un petit peu entre vous avant vraiment de s'engager.
Ce que je trouve cool aussi avec ça, c'est quand tu as une FAQ qui est, comme tu dis, bien documentée avec plein d'éléments complémentaires, tu peux... Pour les freelances, par exemple, qui ont déjà atteint leur entre guillemets plafond de verre du temps, c'est-à-dire qu'ils ont plus forcément de temps à facturer à leurs clients, mais ils veulent quand même développer leur activité, aller plus loin, ça peut leur faire gagner beaucoup de temps sur l'avant-vente, ou quand tu rencontres un nouveau client qui comprend pas forcément ce que tu fais ou qui a des questions, et t'as une FAQ qui est bien faite, bien construite, avec peut-être des contenus que t'as écrit toi-même ou d'autres contenus complémentaires, renvoyer vers ça, ça prend beaucoup moins de temps et ça apporte quand même énormément de valeur. Plutôt que de passer 3 heures au téléphone pour chaque client, pour expliquer chacun des trucs. Et je trouve que c'est un apprentissage intéressant de la pratique startup du scale, c'est-à-dire comment tu prends un client en plus sans que ça te prenne une minute en plus, ou plus de ressources en tout cas, qu'on peut appliquer au freelancing. Du coup, invitation à tous, faites une FAQ sur les questions qu'on vous pose le plus souvent, quoi.
Ouais, puis si on vous pose pas tant de questions que ça, imaginez toutes les questions que votre client pourrait vous poser...
Ou qu'il se pose tout seul, sans chercher de réponse auprès de vous. Parce que du coup, s'il se pose plein de questions sans les poser, ça crée de la distance entre vous, en fait.
Absolument.
C'est intéressant, ça. Et le dernier morceau de l'acronyme, ce qui est le R, c'était répondre gentiment en toutes circonstances, même face à la haine et l'agacement. Ce qui est, je pense, très difficile à faire pour beaucoup de personnes.
On en revient à ça va être prendre de la distance, vraiment. Et du coup, ça retouche à l'empathie, en fait. C'est essayer de comprendre pourquoi ce client est hyper agacé. Et effectivement, c'est peut-être mon client dans sa boîte, il a une grosse pression de ses boss, donc du coup, il décharge sa pression sur toi. Et du coup, quand tu comprends cet enjeu-là, tu comprends que ton client, il veut juste pas te persécuter, c'est juste que lui, il est hyper stressé et qu'il a peur. Et justement... Si tu arrives à le rassurer à ce moment-là, au contraire, tu vas le fidéliser sur des années. Enfin, nous, ça nous arrivait plein de fois chez Shine d'avoir des clients, mais dans des colères noires. Et en fait, on a su retourner la vapeur et c'est des clients qui sont devenus nos meilleurs ambassadeurs. On a même eu, j'en parle souvent, c'est une cliente qui était très, très fâchée contre nous parce qu'elle s'était fait voler sa carte chez Shine. On lui a offert la carte un week-end et c'était devenu notre meilleur ambassadeur. Et maintenant, elle est en CDI chez Shine depuis plusieurs mois.
Mmh. Ah oui, c'est vrai, c'est la freelance qui vous a rejoint en freelance et qui, du coup, finalement, est restée, quoi.
Exactement.
C'est intéressant parce que je pense que ces sujets-là, ça traite au-delà des aspects business et relations clients, de juste les relations humaines, en fait.
C'est ça.
Et de se défaire, comme tu le sais, moi, je suis un grand passionné de développement personnel, j'adore toutes ces questions, mais ça touche à notre capacité à nous défaire du jugement qu'on porte sur les autres. C'est-à-dire, là, l'exemple que tu as donné est parfait, de, il y a une personne qui a une énorme pression et elle décharge ça sur nous. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont entendu ça en écoutant et qui se disent, mais genre, c'est horrible qu'elle fasse ça, et qui vont juger la personne en disant, elle n'a pas à décharger sa pression sur moi, parce que c'est la sienne, c'est pas la mienne. Mais quand nous, on prend la posture de se dire, je ne juge pas pour ça, et je cherche à comprendre et à l'aider à justement mieux gérer cette pression et à être, comme tu dis, main dans la main et son allié dans la situation, on gagne beaucoup plus qu'à rejeter et juger la personne en disant, t'as pas à faire ça, moi je suis un prestataire, je suis pas la personne sur qui on décharge la pression. Ou du coup là, on fait une rupture directement avec le client. Et je trouve ça vraiment passionnant à quel point... surtout dans ce sujet-là de la relation client, au final, c'est juste comment est-ce qu'on développe des relations plus saines, transparentes, profondes, confortables entre un humain et un humain, parce qu'au final, c'est ça, un client, c'est un client, c'est deux humains qui échangent, quoi. C'est quoi d'autres clés que tu dirais sur ça? J'ai envie d'aller plus loin.
Non, mais c'est hyper intéressant. Enfin, il y a un moment, enfin, là, on va rebondir sur du développement personnel, mais à partir du moment où tu reçois un mail incendiaire et tu te dis « cette colère, elle ne m'appartient pas, elle appartient à son envoyeur », bah, ça t'aide déjà à te distancier de cette colère-là et de pas la prendre et qu'elle t'affecte pas, parce qu'au final, c'est hyper dur quand t'es freelance, t'es tout seul. Donc, dès que tu prends de la haine, ben, y a que toi qui la prends, t'as même pas tes collègues à qui tu peux prendre un café et dire, ouais, bah,
ouais, je me suis fait allumer. Pas fait d'armes.
Et quand, à partir du moment où tu reçois le mail, tu dis, bah, un, cette colère m'appartient pas. Deux, je vais voir comment, justement, je peux aider ce client à
mieux gérer ça, quoi.
Ouais, mieux gérer ça et à. Et en général, enfin, la colère, c'est là une frustration ou une peur ou une pression. Donc, il faut essayer de justement décoder d'où vient cette colère-là. Et une fois que tu as décodé, que tu expliques au client, ben, je comprends pourquoi vous êtes paniqué parce qu'il y a des deadlines hyper short. Voilà, on va procéder de telle manière. Et vraiment, par contre, c'est intéressant de détailler. Enfin, et quand on s'engage sur un temps, il faut vraiment le respecter parce que sinon, on la confiance. Mais pareil, quand on dit à un client, admettons... je reviens vers vous à 17h pour justement résoudre ce problème-là. Si vous revenez vraiment vers le client à 17h, déjà le client il va être tranquille jusqu'à 17h, et si tu le rappelles à 17h, ben il sera plus du tout en colère.
Ouais, ça sera calmé, quoi.
Comme on dit, mais... puis il faut savoir aussi que les gens ils ont tendance à faire les foufous à l'écrit en étant hyper agressif. Mais moi ça m'arrivait plein de fois d'avoir des mails vraiment incendiaires, et puis quand j'appelle le client est tout gentil en fait.
Ouais, je pense qu'il y a une grande part aussi de. Comme dans, encore une fois, ça revient à la communication interpersonnelle, dans l'écrit, on n'a pas le non-verbal, on n'a pas les éléments d'intonation et tout ça. On ne peut pas avoir 100% du message. C'est-à-dire qu'on ne voit que les mots. Et du coup, on peut avoir une interprétation complètement différente. C'est tout comme les messages qu'on s'envoie avec quelqu'un quand on est dans une situation de drague ou un truc comme ça. Et, putain, la personne, elle a mis un point, elle n'a pas mis un emoji. Et on crée toute une analyse derrière. Alors qu'au final, comme tu dis, le client, ça se trouve, il n'est pas énervé. Il a juste, c'est juste sa manière d'écrire, de mettre des points. Tu vois. Et je trouve qu'on, des fois, on en fait des caisses sans se demander vraiment qu'est-ce que vit la personne derrière. Et comme tu dis, on peut appeler et ça se trouve, la personne, ah non, mais tout allait bien, c'est juste, enfin, je l'ai écrit la va-vite, quoi. Et on donne une énorme, genre, on donne beaucoup de pouvoir à un mail. Alors qu'au final, putain, c'est un mail, quoi. C'est un mail écrit à un instant T, et ça se trouve, 10 minutes, la personne venait de se prendre, ouais. Un message incendiaire par son boss, et du coup, il est dans une mauvaise posture, et le mail, il écrit dans cette mauvaise posture à ce moment-là. Et j'ai adoré ce que tu as dit, je pense que je vais le réutiliser en citation, se rendre compte que la colère, elle ne nous appartient pas. Et je pense même se rendre compte que la colère n'appartient même pas à notre client, même si c'est lui qui envoie le mail. C'est juste une circonstance du moment qui fait qu'à ce moment précis, oui, il y avait de la colère dans le mail, mais 10 minutes plus tard, elle peut repartir, et elle appartient à personne, au final. C'est juste genre... les éléments du moment, quoi.
Absolument.
Putain, on est profond. Il y a un autre sujet qu'on a traité ensemble dans une conférence qu'on a donnée à un Startup Weekend. Et il y a une de tes slides où tu disais que dans cette relation client, l'écoute était incroyablement importante et que l'écoute, c'était un avantage compétitif. Est-ce que tu penses que c'est aussi vrai pour les freelances?
Ben, j'en suis convaincue, en fait, parce que quand tu vas discuter avec un prospect, par exemple, en tant que freelance, et que ton prospect te dit « Ah, mais moi, ton concurrent fait ci, fait ça » ou « Ah, j'aimerais que tu fasses ça », ben, il va falloir qu'il réfléchisse, parce que ça veut dire que toi, si t'agis pas, ben, puis c'est hyper compétitif, du coup, le milieu du freelancing, parce que t'es pas face à quatre grandes boîtes, t'es face à...
peut-être 100 personnes qui ont les mêmes compétences que toi.
Donc, c'est intéressant de consigner, je pense, tous ces retours-là, toutes ces volontés aussi des clients, pour toi, après, affiner tes offres, en fait.
Du coup, qu'est-ce que tu entends, du coup, par l'écoute? Ça veut dire quoi, l'écoute?
Bah, c'est que si un client, par exemple, te dit « Moi, je veux ça », que tu proposes dans ton offre, ou « J'en sais rien, je préférais que tu découpes ta tarification comme ça », s'il te le dit, c'est pas anodin. Enfin,
Ça veut pas dire qu'il faut l'écouter à 100% et faire exactement ça, mais c'est des...
réfléchir, ouais.
Mais y réfléchir et avoir des indices. Je pense, effectivement, moi, par exemple, j'ai plein d'exemples personnels de quand j'ai travaillé avec des clients, où j'étais peut-être face à des agences ou d'autres compétiteurs, où le fait d'avoir pris un temps en amont avant de faire ma proposition, juste pour discuter avec les clients et comprendre ce qu'ils cherchent vraiment, pour ensuite construire mon offre pour qu'elle réponde à ce que j'avais entendu, ça m'a permis de gagner le projet, alors que notamment des agences qui ont des méthodos super structurés et qui sont obligées de garder leurs méthodos, moi j'ai pu affiner et changer ma manière de travailler pour que ça corresponde davantage aussi aux besoins et aux attentes du client. C'est ça qui m'a fait gagner pas mal de fois. Et juste, j'ai pris une heure de plus que les agences qui ont envoyé leur devis direct pour écouter, me mettre dans la peau des autres et me dire, OK, ben ça, comment est-ce que moi, je peux mieux y répondre tout en gardant ma personnalité et ma méthode à moi, bien sûr, mais en l'affinant pour que ça corresponde vraiment à leurs besoins, quoi. Et ça, c'est juste effectivement prendre le temps d'écouter les gens et leurs problèmes, en fait.
Enfin, d'ailleurs, c'est ça, pour moi, l'avantage d'être un freelance par rapport à une agence, c'est que quand t'es freelance, t'es hyper agile parce que tu peux tout faire tout seul par rapport à une agence où ils ont des tas de règles. Donc, effectivement, ça a vraiment du sens de pouvoir affiner le plus possible ta proposition pour qu'elle corresponde vraiment à ce dont ton client a besoin. Puis, de toute façon, on en repart, enfin, on retourne toujours à la même chose, en fait, c'est qu'on est là, en fait, pour répondre à des besoins, en fait.
Et développer une relation avec cette personne pour continuer de répondre à leurs besoins sur le long terme, quoi.
C'est ça.
Trop bien. Une dernière question que j'ai envie de creuser pour essayer de clôturer un peu cette discussion vraiment intéressante sur comment prendre mieux soin de ses clients. S'il y avait pour toi une recommandation clé à donner aux freelances pour mieux prendre soin de la relation avec leurs clients et améliorer cette relation-là, ce serait quoi les 1 à 3 grands apprentissages que tu as eus avec toute ton expertise sur le sujet?
Alors, les apprentissages... ça va être un petit peu bizarre ce que je vais dire, mais moi, je trouverais ça hyper intéressant qu'en tant que freelance, on a un CRM.
OK.
Où on note le nom, prénom des clients et toutes les informations qu'on a pu glaner lors des conversations. Parce que typiquement, tu discutes avec ton client, puis il te dit que son anniversaire, c'est le 24 janvier. Bah, c'est hyper intéressant quand même de le contacter le 24 janvier, de lui souhaiter un joyeux anniversaire, par exemple. Et je pense que tous les échanges que tu vas avoir avec ton client, c'est de l'or. Il faut que tu aies un endroit où les consigner parce que ça va te resservir à un moment ou à un autre. Et plus tu connais tes clients, plus en fait, tu es en symbiose avec eux.
Ouais, et plus tu peux les servir.
Exactement.
Ah, c'est super intéressant. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un CRM, c'est un acronyme anglais ou qui dit Customer Relationship Management. Il y a plein d'outils pour ça. En gros, c'est un outil qui te permet de centraliser la relation avec tes clients et toutes les informations importantes pour ça, comme effectivement l'anniversaire. C'est beaucoup utilisé dans les grands groupes pour envoyer genre une bouteille de vin ou des trucs sur les enfants. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça, quoi, qui sont utilisés notamment dans le travail commercial. Et je pense qu'effectivement, on a des clés à apprendre de ça. De se dire, pour développer des relations profondes avec nos clients et sur le long terme et de confiance et où on s'entend bien, bah juste mieux les connaître, clairement, ça nous aide à faire ça, en fait. Et du coup, l'inverse, je pense, est vrai aussi. Comment nous, on peut aider le client à mieux nous connaître pour créer cette relation de confiance et à créer davantage de liens?
Bah, créer davantage de liens, ça va être vraiment communiquer régulièrement avec eux, bah, les tenir au courant de notre actualité en tant que freelance, en fait.
Du coup, ce que tu dirais, c'est pour ceux qui nous écoutent, pour développer une meilleure relation avec leurs clients, c'est mieux les connaître et donc avoir un CRM et noter toutes ces infos-là et vraiment être à l'écoute. plus de transparence, plus de communication et de mettre au courant avec de tout ce qui se passe. C'est quoi la... S'il y avait une troisième clé, ce serait quoi?
Une troisième clé...
Je te fais travailler. Je te fais bosser.
Une troisième clé, moi, j'ai beaucoup aimé ta vision. Enfin, moi, c'est peut-être cette clé que j'utiliserais, c'est effectivement faire un petit peu de veille, tu vois, en tant que freelance, et puis regarder les sujets qui intéressent mes clients, en fait. Et puis dès que... Tu vois, comme faire une mini-veille pour eux, en fait.
Ouais.
Ça peut vraiment être chouette. Enfin, parce que moi, un freelance avec qui je bosse et qui m'envoie des articles que j'aurais pas vus, qui concernent mon sujet, je me dis « Ah, waouh !» Et puis, du coup, tu restes vraiment... dans mon top of mind. Dès que j'en appelle, je me dis « Ah, c'est Thomas, c'est personne d'autre. »
Et ça permet aussi de montrer que « I really care », quoi. Exactement. J'ai vraiment envie que tu développes ton activité, donc je t'envoie des informations qui, je pense, sont importantes. Et tu montres que bah, t'es engagé dans le projet, quoi. Pour venir sur les questions rituelles de fin de podcast, toi, en tant que freelance, sachant que jusqu'alors, si j'ai bien compris, la majorité de ton activité de free, ça a été en parallèle d'un job, même si là, en ce moment, t'es en full-time dedans. C'est quoi la plus grosse galère que t'as vécue et comment tu l'as dépassée?
Alors, je suis pas sûre de la dépasser, mais ma plus grosse galère, c'est quand j'ai débuté en tant que freelance. Pour moi, l'argent, c'était vraiment un tabou. Et j'en parlais pas, j'avais honte de faire signer un devis. Donc, du coup, je me suis retrouvée à travailler gratuitement pour une...
Je pense que cette histoire, il y a plein de gens qui l'ont vécu.
Pour une horrible personne. Et non, ça s'est hyper mal passé. Je l'ai vraiment pris à cœur. Hein. Ça a vraiment débordé sur ma vie personnelle. C'était des petits montants, mais ça m'énervait qu'on m'utilise comme ça. Et avec le temps, je me suis dit, maintenant, tant pis, quoi. Ça veut dire que si le client, il veut pas me signer mon devis et qu'il veut pas me payer un acompte, c'est que c'est pas un bon client et au revoir, en fait. Et je pense qu'effectivement, faut écrémer pour travailler avec des gens bien et honnêtes.
Ouais, c'est clair. Je pense qu'effectivement, il y a un vrai enjeu d'être plus à l'aise à parler d'argent, quoi. J'ai un épisode de... Je sais pas s'il sera sorti avant ou après le tien, mais j'ai un épisode dédié au sujet parce que j'ai l'impression que la majorité des freelances ont un vrai rapport pourri avec l'argent. Sur plein de différents sujets, on va pas rentrer dans ça là maintenant parce que c'est un sujet à part entière, mais trop cool. Merci d'avoir partagé ça. Parce que je pense pas que ce soit le truc le plus valorisant à partager, surtout comme c'est au début, mais c'est pas grave. Moi aussi, j'ai eu des problèmes avec l'argent au début. On traite tous avec ce sujet un jour ou l'autre, je pense. L'autre question rituelle, du coup, c'est si tu étais face à Aurore plus jeune, qui, du coup, a des problèmes avec sa relation avec l'argent, avec toute l'expérience que tu acquiers sur l'indépendance, sur la relation client, sur le freelancing, sur l'entrepreneuriat depuis, c'est quoi le conseil majeur que tu te donnerais à toi-même si tu devais recommencer au début?
Si je devais recommencer au début du freelancing, je pense que j'accepterais pas toutes les offres. Enfin, j'étais vraiment opportuniste quand j'étais plus jeune. Quelqu'un me disait « je veux bosser avec toi », je disais « oui ». Et en fait, j'évaluais pas si ça allait être rentable ou pas. J'acceptais des tarifs dérisoires et au final, je continuais un peu par allégeance par rapport à mon client, mais je savais que je perdais de l'argent. Et je pense que maintenant, je dirais pas oui à tous les projets parce que je pense qu'au début, quand t'es freelance, t'as pas confiance en toi. Tu te dis « Ah, mais il faut que j'accepte tout parce que personne voudra de moi. » Mais en fait, bien sûr que tout le monde voudra de toi. En fait, faut juste choisir les bons clients. Enfin, tu vois, on en revient toujours à des analogies de dating, mais c'est un peu pareil si tu vas pas dater le premier match Tinder. Enfin,
ouais, c'est vrai.
tu attends de trouver...
C'est marrant, ça. Un freelance qui a besoin de mission, c'est comme quelqu'un qui prend tous les matchs sur Tinder et va boire un verre avec chaque.
Ouais,
Ah, c'est drôle. Marrant comme analogie. Peut-être que ça parlera à des gens qui écoutent. Trop drôle. Et la dernière question, du coup, qui est la bonne question qui fait bien réfléchir, c'est quelle est la question que tu as envie de poser aux gens qui nous écoutent pour que cette semaine, ils aient une vraie réflexion de fond sur leur activité?
C'est pourquoi tu fais cette activité? Pourquoi cette activité, elle te motive à te lever le matin?
Ouais, donc je sais que c'est un sujet qu'on partage beaucoup, le « why ». Creuser bien loin dans son pourquoi. Pourquoi tu trouves que c'est important d'avoir cette réflexion sur pourquoi tu fais cette activité?
Parce que ça peut t'aider à rectifier le tir, ça peut t'aider à avoir des meilleurs choix. Justement, ton why, il va t'aider des fois dans le choix de tes clients. Parce que peut-être que toi, ton why, ça va être l'éducation et ça va moins être, j'en sais rien moi, la fashion par exemple. Et du coup, tu vas choisir tes clients en fonction de ça aussi.
Ouais, donc c'est un petit filtrage en fait.
Exactement.
Ouais, c'est intéressant. Je te rejoins complètement sur ça. Où est-ce que on peut envoyer les gens qui veulent échanger avec toi, parler de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui sur la relation client, mais aussi sur ta vision du freelancing comme étant une sécurité d'emploi pour que tout au long de ta carrière, tu aies des choses que tu pourras développer, peu importe le contexte. C'est des gens qui veulent parler de tout ça avec toi, où est-ce que je les envoie pour qu'ils puissent
LinkedIn.
Échanger LinkedIn. Je sais que t'es une grande fan de LinkedIn. Et d'ailleurs, il y a un autre point qu'on n'a pas parlé, mais je trouvais intéressant, et juste pour apporter de la valeur aux gens qui nous écoutent, je les invite à aller voir. Sur ton site, c'est pas forcément un site que t'as pris énormément de temps à designer, mais par contre, il a la valeur de bien construire la valeur perçue de ce que tu fais. C'est-à-dire qu'il y a une page où tu détailles tous les endroits où t'as pris la parole sur ton sujet, avec des photos, tous les endroits où t'as pu coacher des gens comme en Startup Weekend où on le fait tous les deux, et t'as des photos. T'as même mis des retours de gens qui ont adoré ton travail, des retours de gens qui te remercient, et tout ça en photo sur une page de ton site. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que j'y suis allé pour préparer le podcast et je me suis dit, ah ouais, elle a fait pas mal de choses quand même, Aurore. Et tu vois, rien que cette perception-là, pour quelqu'un qui te connaît pas, qui voudrait travailler avec toi, je trouve ça vraiment fort, en fait. Et du coup, c'est une invitation que je fais aux gens de se demander quels sont tous les éléments que j'ai reçus dans le temps ou que j'ai à ma disposition, qui peuvent valoriser mon expertise, mon savoir-faire. Voilà. Je vous invite à aller voir le site d'Aurore et à aller parler avec elle sur LinkedIn. Je mettrai les liens dans la description. Merci pour cette conversation, c'était vraiment top. Et à bientôt sur le podcast.
À bientôt, merci Ciao. Beaucoup.
J'espère que cet épisode t'a plu, que t'en as tiré de nombreuses actions, de nombreuses clés à mettre en œuvre dès maintenant dans ton activité. Et je voulais te partager ce que je retiens personnellement de cet échange. C'est vraiment tous ces questionnements et cette réflexion autour du lien plus profond qu'on peut développer avec nos clients pour avancer ensemble, encore une fois, sur le long terme. Et j'adore cette réflexion sur la façon dont on peut créer davantage de liens et des relations plus durables. Et c'est une des raisons phares pour lesquelles je parle très souvent, d'ailleurs, du sujet des clients idéaux sur ce podcast, parce que si tu ne travailles pas avec des clients qui, de base, t'inspirent, des gens qui te parlent et avec qui tu as envie d'être, et si de base les clients avec qui tu travailles ou que tu cibles, bah, tu les aimes peut-être même pas, mais forcément c'est difficile d'être empathique et forcément c'est difficile de développer de meilleures relations et globalement de mettre en place tout ce qu'on a partagé dans l'épisode avec Aurore. Donc c'est pour ça que c'est incroyablement important ce sujet des clients idéaux, de se demander qui sont les personnes qui m'inspirent et avec qui j'ai véritablement envie de travailler, parce que là évidemment ce sera plus simple de faire tout ce travail là. Bref, j'espère que tout cela t'a bien fait réfléchir et que tu vas mettre en place de nouvelles choses pour mieux travailler avec les humains que sont tes clients. Parce que au final, on l'oublie beaucoup trop souvent, mais le B2C, le B2B, enfin tous ces acronymes-là, au final, ça n'existe pas vraiment. Parce qu'il n'y a que des humains qui travaillent avec d'autres humains. Et je pense que c'est important de le garder en tête. Et sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse semaine et à te dire à très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.